Les manettes à la baguette sur RCN, Yoann Turpin.
Et oui, actu ciné, jeux vidéo, séries, on en parle, oui, mais au travers d'extraits musicaux. Et après cette petite interruption, il faut bien le dire, parce que j'ai eu des vacances.
De très longues
vacances. Me voilà de très longues vacances. Me voilà enfin revenu et pour bien redémarrer, je propose qu'on commence avec mon premier choix. Ah, c'est beau.
Oui. Final Fantasy.
En effet.
Lequel?
Absolument. Alors, le 6, évidemment, nous avons entendu Searching for Friends. Mm-hmm. Les amateurs auront reconnu de, faut-il le rappeler, Nobuo Uematsu. Et alors, sorti en 94, oui. Mais pourquoi est-ce que nous l'écoutons ?
Très bonne question.
Alors, il s'est passé quelque chose d'assez dramatique et finalement assez dans l'air du temps. Et je crois que ça devient pire que notre William Seat très répandu dans cette émission, notre nouveau fil rouge, pour pas dire cheval de Troie, c'est qu'il y a eu un petit drama. Hironobu Sakaguchi, le créateur, réalisateur de toute la série, s'est enthousiasmé sur les réseaux sociaux pour une vidéo qui remontait, qui nous montrait à quoi pourrait ressembler un Final Fantasy VI magnifique refait en HD, puisqu'il n'y a pas eu de remaster, hein, c'est la folie. Tout le monde a des spéculations sur quel Final Fantasy va bientôt revenir en 3D. Moi, je suis amateur du neuf, j'adorerais voir ça, bref. Et il s'est enthousiasmé pour une vidéo absolument où il disait mais c'est formidable, ça c'est quoi ? Et alors, problème, c'était de l'IA.
Bah oui,
évidemment.
On s'en doutait.
Est-ce qu'il est si innocent que ça, etc. Donc ça a donné toute une sorte de pataquès et finalement, de fil en aiguille, se rendant compte que ce qu'il est commun d'appeler, pardonnez-moi chers auditeurs, une shitstorm générale en disant « Quoi ? Comment est-ce possible ?» Vous ne vous rendez pas compte que c'est lié. Enfin, ça se voit comme le nommé de figure. Bon, j'ai vu la vidéo, effectivement, c'est pas compliqué.
C'est flagrant.
Voilà. Ouais. C'est flagrant de se rendre compte que c'est pas du tout le travail d'un fan. Il y en a, hein. Il faut quand même bien préciser qu'il y a beaucoup de fans avant que l'IA ne débarque absolument partout. Il y avait déjà beaucoup de fans qui refaisaient des choses, notamment avec le moteur Unreal, par exemple. On peut citer le nombre de vidéos hommages qu'il y a sur Zelda. Et il a fait ensuite tout un tas de déclarations en disant, voilà, c'est un peu à l'image de ma carrière. Moi, pendant 40 ans, j'ai foncé et je suis allé sur les choses qui me faisaient vibrer sans réfléchir. Et peut-être que maintenant, je vais lever le pied, je vais faire attention, etc.
Et qu'il ne nous fasse pas un Final Fantasy en IA, quoi.
Alors non, je ne pense pas. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que l'engouement pour ces remasters est toujours très présent, que c'est une communauté très active. Ouais. Il a eu l'occasion de s'en rendre compte qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec tout ça. Par exemple, il n'est pas un gagné emporté avec le Final Fantasy VII ressorti en trois versions, puisque la narration est changée. Ceux qui avaient déjà joué à l'ancien, ils voulaient leur proposer quelque chose de nouveau. Donc, il n'y a pas du tout... il n'y a pas de consensus sur ce jeu-là sorti. Et donc, voilà, il y a quand même effectivement beaucoup d'émulation. Et moi, je trouve que quand les fans font leur travail, ça marche très très bien. Alors toujours dans le respect, hein, c'est pas la peine, d'être violent. Mais ça, encore un témoin du temps, j'ai envie de dire, de tout ce qui se passe un peu. Et évidemment, films comme jeux vidéo et même séries sont impactés par ça. La preuve en est, un spécialiste, pour pas dire un des papes du genre, s'est laissé avoir. Et voilà.
Très bien, allez, j'enchaîne.
On y va. Thank you. fameux. Et j'avais parlé de notre Williams site.
Bah oui.
Nous l'avons en plein.
Exactement. John Williams.
Oui.
Avec Les Aventures de Tintin.
Et bien sûr.
Un film réalisé par Spielberg qui est sorti en 2011. Donc ça commence quand même à faire assez longtemps.
Ça ne rajeunit pas.
Oui. Il était aussi produit par Peter Jackson et ça a adapté en motion capture. Donc c'était un peu en 3D. Le Crabe aux pinces d'or, Le Secret de la licorne et Le Trésor de Rackham le Rouge.
C'était bien adapté dans mon souvenir.
Ouais, c'était. Alors c'est un film qui n'a pas trop marché aux États-Unis mais qui a super bien marché partout ailleurs, surtout en Europe. Normal avec Tintin. Mais c'était un. Moi, je me souviens l'avoir vu il n'y a pas très longtemps et c'était vraiment un super film.
Oui.
Qui finissait un peu sur Tintin, Captain Haddock et leur fidèle compagnon Milou qui partaient chercher l'épave de la licorne.
En effet.
Et donc ça s'arrêtait là-dessus et donc ça fait 15 ans qu'on attend un peu une suite. Et bonne nouvelle, en ce moment il y a le festival de Cannes et Peter Jackson qui est producteur de ce film a reçu la palme d'honneur.
Oui, c'est vrai.
De la part d'Elijah Wood en plus, donc Frodo qui donne à son créateur, donc c'est assez cool. Et donc, il a dit aussi donc, pendant cet événement qu'il était actuellement en train de travailler sur la suite de Tintin en tant que lui-même réalisateur donc là, et scénariste. Donc là, il écrit le scénario avec sa femme, donc Fran Walsh. Ils échangent avec Spielberg, il va falloir se mettre d'accord sur certaines choses. Et après, ils révéleront petit à petit quel album ils vont adapter, parce qu'on ne sait toujours pas. Mais voilà, on sait que Peter Jackson, il est en train de s'occuper du scénario actuellement. Moi, j'attends ce film avec impatience parce que le Tintin de Spielberg était vraiment très très bon.
Oui, ah bah totalement.
De ce que je me souviens.
Et puis c'est très ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça montre quand même l'intérêt de ces géants-là qui peuvent s'emparer d'une licence même si effectivement elle fait pas l'unanimité en disant le matériel est bon, donc si c'est bon, nous on le fait et ça permet d'enrichir encore la chose. Mais moi je me souviens effectivement que très honnêtement, on est en 2011, il faut se souvenir que les technologies sont pas celles qu'on a maintenant.
Bien sûr.
C'était quand même d'excellentes factures.
C'était très très beau, il y avait très belles transitions. Voilà. Donc voilà, on attend la suite de cette aventure de notre détective à la petite toupette.
Oui, oui. Bon, bah, c'est une super nouvelle.
Oui.
Allez, enchaîne.
Les manettes à la baguette sur RCN.
Ah oui.
Oui.
Alors en fait, il faut vous dire que notre ami et éminent musicologue radiophonique Joris voit les titres. Quelquefois, bon. Et évidemment, il est commun de dire, avec l'expression consacrée du moment, c'est obvious pour lui. Maintenant, le jeu sur cette session-là est de savoir pourquoi est-ce que je parle de Ghost of Your Take, dont nous venons entendre le thème, composé par le génial Thomas Ottawa.
Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi parle-t-on de Ghost of Your
Alors,
Take? Un drame, encore
on va pouvoir plonger. Un drame, je ne sais pas, mais certains vont le vivre comme un drame. On va pouvoir plonger un peu plus dans le mystère, que j'aurais pu tout autant parler de Sa Rose, de Marvel's Wolverine, comme j'aurais pu parler de tout un tas d'autres jeux. En fait, Sony fait un grand revirement stratégique, on le sait, c'est confirmé. Il n'y aura plus de portage PC. Les exclusivités vont devenir les exclusivités.
PlayStation.
Et
quoi,
voilà, PlayStation, vous n'avez qu'à acheter nos consoles. Voilà, donc depuis 2020, il y avait, avec Horizon Zero Dawn, ils avaient commencé à faire les portages. On se souvient de la disponibilité sur Steam et Epic Games, qui avait fait grand bruit, etc. Mm-hmm. C'est fini. Là, alors, ou bien, il y a deux choses. Bien sûr, on pourrait dire c'est Sony, besoin argent rapide. Mm-hmm. Mais quand même, moi, j'aime ce retour à une époque où l'exclu, c'était l'exclu.
Ouais, c'est ça.
Seul Nintendo est toujours la seule à jouer vraiment le jeu et de toute manière, c'est pas parce qu'elle propose et elle le sait des applications très pourries sur iOS ou Apple, sauf son application musicale qui vous permet, je vous le rappelle, permet d'écouter quand même pas mal de sa discographie de manière légale là, si vous achetez le pass. Et je trouve que l'application est bien faite parce qu'en plus vous pouvez étendre les musiques comme vous voulez. Enfin, il y a des très jolies choses. Mis à part ça, eux, ils ont vraiment un univers et un biotope fermé.
Ouais.
Mais les autres, c'était un peu cross-média. Ben, là, Sony fait la même chose, c'est terminé. Plus de portage PC, mesdames, messieurs. Si vous voulez une exclu Sony, il faut jouer sur Sony.
En vrai, ça ne me choque pas tant que ça, parce que comme tu disais, Nintendo le fait depuis toujours.
Exactement.
Donc,
voilà.
Je ne vois pas le problème.
On ne joue
pas à Zelda sur la PlayStation,
non,
comme on ne joue pas à Mario sur
c'est
Xbox.
C'est vrai, mais ça dit quelque chose, à mon avis, aussi du temps, qui est du fait que Sony, c'est quand même pas... Bon, j'ai comparé Nintendo, c'est un modèle d'exploitation de licence qui est très restrictif, mais pour de bonnes raisons. C'est pas la même chose, c'est pas la même culture d'entreprise. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Sony se dit bon, on a nos consoles, on aura aussi très prochainement nos consoles portables. Je peux imaginer tas de choses. Ça suffit d'aller chez les autres. Après tout, c'est bon, tout est en place. C'est une autre. Moi, je trouve que ce revirement stratégique, je l'ai accueilli avec grand bonheur. Mm-hmm. On va voir ce que ça va donner.
Bien sûr.
Ça va pas plaire à un certain nombre de gens qui se disent, et surtout aux joueurs PC qui disent
il
faut prendre quand on prend un PC, on a besoin de. Rien besoin d'autre, le PC fait tout. Ah, mes bons amis, ce temps-là est peut-être évolué, en tout cas.
Sinon, vous jouerez aux jeux Microsoft.
Voilà, c'est ça. Alors bon, dans le monde légal, évidemment, on peut en parler. Voilà, on connaît tous un pote d'un pote d'un pote. Mais bon, voilà, les temps changent, mes amis. Les temps changent.
Ouais. Et j'enchaîne.
C'est parti. Thank you.
Ah
bon. Alors thème de héros,
oui.
J'ai entendu des choses assez film noir avec peut-être bien un sûr. Personnage féminin un
ouais.
peu sensuel.
Ouais. Oui, t'as tout
oui.
dit.
Ah, j'ai tout dit. Très
alors
bien.
Le premier thème était Catwoman.
Oh.
Et le deuxième était Batman. Donc en fait, on est vraiment dans le dans
ah,
tout ce que t'as
oui,
dit un film noir puisque
oui.
c'est The Batman de 2022
oui.
qui était réalisé par j'ai oublié son petit nom, Matt Reeves.
Oui.
Et la musique par le fameux
avec Robert Pattinson dans le rôle.
C'est ça, ouais. le fabuleux Michael Giacchino hein.
Ah
qui,
oui,
qui a fait les musiques.
Oui, oui. Fabuleux,
donc très très bon, avec plein de thèmes qui reprennent un peu l'Ave Maria de Schubert sous
oui.
des formes différentes,
oui.
hein, bien sûr. Et donc, le premier est sorti en 2022, et donc on sait que la partie 2 sort l'année prochaine, normalement prévue pour le 1er octobre, mais bon, on sait que tout peut changer dans la date de sortie
oui.
des films. Mais Matt Reeves, le réalisateur, nous a annoncé un petit peu le casting de cette deuxième partie, avec toujours Robert Pattinson.
Oui.
Dans le rôle de Bruce Wayne et Batman. Hein. Jeffrey Wright qui continue son rôle de l'inspecteur Gordon. Andy Serkis qui faisait Alfred.
Alfred, absolument.
Colin Farrell qui reprend son rôle du pingouin, qui a d'ailleurs
oui.
eu sa propre série.
Oui, il y a eu une spin-off
ouais.
de la série.
Et on a des petits nouveaux, puisqu'on a Scarlett Johansson avec un rôle dont on ne connaît pas le nom encore.
Oui.
Et on a Sebastian Stan. Très
oui.
très bon, qui fera Harvey Dent. Hein, donc Harvey Dent qui devient, si vous connaissez un peu l'univers de Batman, ouais, double face. Donc voilà, un beau casting pour cette partie 2. Et une double actu, puisqu'on a aussi le jeu Lego Batman, l'héritage du Chevalier Noir, qui est sorti.
Et oui.
Et qui reprend tout ce qui existe de Batman dans les comics, plus les films de Tim Burton, plus la trilogie de Nolan, Dark Knight, plus
oui,
le
oui,
film
oui,
Batman
oui.
de 2022. Donc les fans de Batman sont servis, parce que c'est
oui.
un... C'est un jeu Lego qui...
Il faut rappeler que les jeux Lego sont
ouais.
très bien écrits.
Très très
généralement,
bien.
Généralement, on parlait tout à l'heure avec Nintendo des firmes qui voulaient absolument avoir la main mise
ouais.
sur l'esthétique et maîtriser leur objet. Lego, ils ne font pas les choses à moitié. On peut se poser des questions sur qu'est-ce qu'on construit encore dans les Lego qui sont proposés pour les enfants.
Oui.
On voit à quel point ils ont capitalisé sur les trentenaires.
Ah bah là, ouais, carrément.
Mais ça marche.
Ouais.
Mais en ce moment, ils sont dans un grand boom... alors c'est pas trop le but de l'émission, mais on peut quand même dire que leur smart block intelligent qui font
ouais.
les bruits, etc., qui vont réagir, ça, c'est une telle idée parce que je trouve que les enfants manquent de jouets intelligents.
Ouais.
Voilà, mettez-leur des Lego. Par pitié, sortez les smartphones, mettez les Lego.
Ouais. Voilà, et le jeu. C'est très drôle parce que c'est aussi
oui.
on est sur l'héritage de Batman de A à Z
oui,
puisqu'il
oui.
reprend les mécaniques de combat de Arkham, trilogie Arkham qui était sortie sur nos consoles, qui était des très bons jeux.
Ah oui, totalement, très
très bons
bien.
Jeux Batman.
Oui,
donc voilà,
oui.
les fans de Batman, vous serez servis cette année et l'année prochaine.
Mais c'est fabuleux, ça, c'est très très bien. Alors le film n'avait pas tellement marché. Hein, il avait laissé une demi-teinte,
ouais.
hein, il avait laissé un goût de voilà.
C'est ça.
Colin Farrell dans le rôle du pingouin, il a eu sa propre série, ça. C'était
ouais.
très intéressant, mais ça n'a pas non plus explosé, ça c'est évident.
Ouais, ça n'a pas touché tout le monde.
Voilà. Mais bon, moi je m'en réjouis, j'avais trouvé la proposition vraiment sympa. C'est difficile de s'emparer de Batman et d'en faire quelque
ouais,
chose.
Je suis d'accord.
Voilà, j'ai bien aimé ce que Zack Snyder a voulu nous dire dans, par exemple, à la fin de son
Batman
de son,
Superman.
Ouais, exactement, Batman
Superman.
Exactement. Sa version à lui, pas de celle de Josh Whedon.
Bien sûr.
Oui, moi je suis preneur.
Ouais.
Allons-y à fond.
Allez, on enchaîne avec
c'est
toi.
C'est parti.
Thank you.
alors avec notre concurrent Joris, oui. 54 ans, qui nous vient du Vaucluse, si je vous dis.
Je pense à quelque chose de français, mais je ne sais pas trop.
Absolument,
mais...
je vous dis Festival de Cannes, file d'ouverture hors compétition, vous
la
m'avez répondu.
La Vénus électrique, et que
oui,
je n'ai pas vu.
Bravo, mais la Vénus électrique.
Très bien,
alors,
très bonne musique.
Mais oui, alors déjà, on va en parler.
Ouais.
On a écoutez le titre Electrificata, n'est-ce pas? Alors de Camille Bazbaz. Camille Bazbaz, César en 2019 de la meilleure musique originale pour En Liberté.
Rien que
encore
ça.
Et toujours, c'est vraiment son compositeur attitré, il faut se le dire.
D'accord.
De Pierre Salvadori, hein, qui a fait donc ce film avec Pio Marmaille, Anaïs de Moustier, Gilles Lelouch, pour ne citer que. Et, mais quelle incroyable collaboration quand on regarde un peu la carrière. C'est un artiste touche à tout. Il a vraiment une palette. Et moi, je n'ai rien à dire encore sur le film, mais j'ai écouté, je le confesse, la bande originale et c'est fameux, mais c'est fameux. Ouais. En revanche, j'ai vu en Liberté et j'adore le travail de ce monsieur. Voilà, écoutez Camille Bazbaz, intéressez-vous à ça. En tout cas, Bazbaz, c'est son nom de scène aussi. Il a pas que de la musique de film, il a de la musique perso. Okay. Je n'en dis rien.
D'accord.
Allez écouter cet artiste, c'est fameux. Cocorico, cocorico et encore cocorico. Voilà, je l'ai dit.
Et le film, on verra. Hein.
Ah ben oui, on verra. Alors après, je suis fan d'Anaïs de Moustier, de Pio Marmaille. Je trouve que c'est des acteurs, c'est la nouvelle... Enfin, bon, ils ne sont pas jeunes, mais c'est la nouvelle génération qui fait son trou. Et ça fait plaisir de les voir dans des films de cet ordre-là. Donc allez-y les amis, on vous souhaite le meilleur.
Parfait. Et j'enchaîne.
C'est parti.
Les manettes à la baguette sur RCN.
À la musique des Gorons, de Legend of Zelda, Breath of the Wild.
Tu as tout trouvé.
Et oui.
C'était effectivement la version de Breath of the Wild parce que je voulais parler d'une petite actu qui m'a fait sourire et qui me permet de faire un rappel à tout le monde. C'est que Breath of the Wild est sorti il y a maintenant 9 ans, hein, mais que toujours le jeu suscite de l'enthousiasme puisque là, on a un utilisateur Reddit qui a partagé une photo avec une capture d'écran d'une conversation avec son père qui a 71 ans et qui a commencé le jeu.
Incroyable.
Et qui a dit que c'était le meilleur jeu auquel il n'avait jamais joué. Et du coup, après, il y a d'autres gens qui ont réagi, des gens de 60 ans, 70. Il y a même quelqu'un qui a 75 ans et qui a dit qu'il avait joué à Breath of the Wild pour la 8e fois. Et du coup, ça nous permet de rappeler que n'importe qui peut jouer aux jeux vidéo et que justement, c'est magnifique. Je trouve que c'est un très beau message et que les jeux vidéo traversent le temps et touchent tout le monde, en fait. Que vous ayez, je sais pas, 5 ans ou 75, vous pouvez jouer à Zelda.
Absolument. Alors,
là, c'est l'exemple, en tout cas. Mais
j'ai deux choses à dire. L'histoire ne nous dit pas, déjà, s'ils ont joué sur... Parce qu'il faut-il le rappeler, ce jeu est toujours grand succès, mais il est jouable sur la Wii U, une console morte
c'est vrai.
Nintendo. Voilà, l'histoire ne nous dit pas s'il joue à la version Wii U. Bon, blague à part, ça, et puis surtout, passer, naturellement, toutes les fins de vie ne se ressemblent pas, mais pour celles qui sont les plus difficiles, les stimulations sont toutes importantes, pour nous aussi, tout au long de la vie. D'ailleurs, on a besoin de nourriture intellectuelle, mais le jeu vidéo, ça fait quand même un truc que fait rarement d'autres médias, c'est que ça nous développe le cognitif vraiment énormément, à dose raisonnable, évidemment. Ça nous donne de la vue en 3D, ça nous pousse à nous poser des questions, il y a des énigmes, ça entretient plein de trucs dont on a besoin tous les jours. Donc oui, on peut jouer aux jeux vidéo à n'importe quel âge et jusqu'à n'importe quel âge. Moi qui vous parle, je ne me vois pas me passer de mes consoles, y compris quand j'aurai atteint l'âge canonique de 91 ans.
Je serai mort manette à la main.
C'est sûr, voilà. C'est pour ça qu'on a créé les manettes à la baguette et bientôt ce sera les manettes à l'EHPAD. Ne vous inquiétez pas.
Dans quelques années.
Voilà, dans quelques années. Ok, merci beaucoup pour cette super info.
Voilà, la petite info.
Allez, à mon tour. Alors, mon bon Joris.
J'ai dit que c'était toujours de facture française, mais
en
alors...
En effet, bien sûr, puisque nous avons entendu Méandre d'Éric Neveu, merveilleux compositeur, un des titres qu'on peut retrouver dans la toute dernière saison de Paris Police, et notamment donc série Paris Police 1910. On avait
D'accord.
eu 1900, 1905, 1910. Ouais. C'est a priori la dernière série. Elle
D'accord.
est vraiment d'incroyable facture. Au moment où vous entendrez cette émission, le dernier épisode sera sorti sur donc les plateformes Canal+. Que dire, c'est de Fabien Nury, c'est très très beau, avec Jérémy Laherte, Evelyne Brochu, Marc Barbet. D'ailleurs, Evelyne Brochu, qui, toute artiste québécoise de talent qu'elle est, parle un français sans aucun accent dans la série.
Oui,
je l'ai découvert en préparant cette émission, ça m'a impressionné.
Et voilà. Du coup, c'est une série un peu ouais, c'est policière.
Alors, ça se passe,
quoi.
Oui, ça se passe à la Belle Époque. Hein,
d'accord,
voilà,
ouais.
Donc ça, alors, ça reprend vraiment... les faits sociaux et les événements sociaux de cette période-là, en 1900 pour la première saison, 1905 pour la seconde, mmh. 1910 pour la toute dernière saison. Donc c'est très très intéressant, c'est avec un très célèbre crime que je n'ai pas vous spoiler, mais on est vraiment en plein dans la Belle Époque, tant dans la direction d'acteurs que les choix esthétiques, que l'écriture des personnages. Alors, je suis, moi, à la base, peu série, encore moins série française.
Bien sûr.
Mais là, celle-ci m'a scotché. J'ai trouvé ça excellent. Parlons un peu polémique, n'est-ce pas ? Parce qu'on a une émission qui revendique
oui.
des choses en ce moment.
Bien
vous
sûr.
Savez, il y a tout de même eu des débats, notamment au gouvernement sur l'audiovisuel, et
oui.
nous sommes tous impactés, y compris aussi où nous sommes une radio. Mais le financeur principal de Canal+, dont je ne donnerai pas le nom à cette antenne, mais vous l'aurez reconnu, est suspecté d'avoir fait énormément pression, évidemment, sur cette série, notamment pour qu'on ne parle pas, ou en tout cas qu'on ne on égratigne pas sur ce qu'il se passe dans la séparation de l'Église et de l'État,
ouais.
juste en 1905, puisque c'est un fait de société.
D'accord,
et les, ces faits de société sont vraiment au cœur, on va dire, en tout cas, peut-être pas au cœur, mais infusent vraiment dans cette série qui fait la part belle vraiment à ce qu'on pouvait vivre et à ce qui se passait à cette période-là.
Ouais.
C'est ainsi, d'ailleurs, à s'y méprendre. C'est vraiment bien fait. Et donc, eh ben oui, on se rend bien compte que celui qui paye, c'est celui qui décide et quid de la liberté dans, des productions qu'on va voir. Mais avant même que de pleurer sur notre sort français, un dernier exemple, ça me permet d'en parler. Figurez-vous que Netflix, lorsqu'ils financent quelque chose et qu'ils disent oui, ils imposent en grande partie la manière dont c'est réalisé, parce que figurez-vous que Netflix est principalement regardé sur des smartphones.
Smartphone. Oui.
Pas tranquillement chez vous. Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que quand un réalisateur dit « moi, je vais mettre un maximum de plans larges », c'est pas très beau sur le téléphone, les plans larges. Non, non, tu vas nous faire beaucoup plus des plans proches et serrés.
Même
parce que,
trop proches.
Voilà, trop proches, parce que ça marche bien sur le téléphone.
C'est vrai.
Et nos utilisateurs, c'est ça qui regarde, sinon il va s'en... Donc vous voyez, celui qui paye, c'est celui qui décide. Posez-vous les bonnes questions.
Ouais.
Je drop the mic.
Voilà. Et j'enchaîne.
Mais je t'en prie. Ah, je sèche.
C'est un film réalisé par Steven Spielberg en 1977.
Incroyable.
Composé par John Williams.
Ce ne serait pas un film d'extraterrestre ?
Bien sûr.
Eh oui, c'est le Rencontre du Troisième Type.
Exactement. Rencontre du Troisième Type qui fête bientôt ses 50 ans et qui ressort dans certains cinémas autour de vous. Je vous invite à regarder parce qu'il faut le voir. On va avoir
le droit à Disclosure Day.
Il y a aussi Disclosure Day qui sort cette année. Donc Spielberg qui revient avec un nouveau film d'extraterrestre. Très très bon film. Le plus grand succès aussi de François Truffaut. Alors qu'il est acteur dans le film,
voilà,
ça reste le plus grand succès de François Truffaut. Et aussi une très bande originale, bien sûr, belle bande originale par John Williams, comme
clairement,
d'habitude. Ouais. Là, c'était le thème de Returnees.
Oui.
Et voilà, comme quoi le temps passe très vite.
Absolument, absolument.
Et que Spielberg, on espère, gardera la même qualité avec son Disclosure Day.
Oui. Et puis là, c'est Lubie, donc il y revient. C'est ça qui est bien. On avait un Tintin, on y revient. De 2001 à 2026, on avait un film d'extraterrestre, on y revient.
Et John Williams qui, probablement, ça sera sa dernière bande originale. On sait pas.
Ça n'arrête pas d'être sa dernière.
C'est fort probable. Oui, c'est vrai. Vu comme ça, c'est vrai.
Ouais.
Voilà, donc Rencontre du Troisième Type.
Ok, très bien. On a le temps d'en passer un dernier.
Bien sûr, toi.
Allez. À moins d'habiter dans une caverne. Vous aurez en reconnu le thème de The Mandalorian and Grogu sa version film.
Et oui.
Et naturellement, je voulais vous parler évidemment de cette histoire Star Wars, The Mandalorian and Grogu, que tout le monde attend avec des yeux ronds, puisque la bande-annonce ne dit pas grand-chose et on se demande pourquoi nous avoir mis les dernières aventures en dehors de la plateforme où elle était très bien. Attention, The Mandalorian and Grogu, c'était très très bien. Ça redémarrait bien après la catastrophe de la dernière trilogie. Ça redémarrait les choses. Mais au-delà de ça, moi je voulais surtout aussi vous parler de Jon Favreau, qui est le papa d'Iron Man.
Oui.
Un acteur passable, mais un réalisateur incroyable, voilà, qui a réussi ce truc-là de nous redonner du Star Wars là où on l'attendait. Donc, on va lui donner sa chance et surtout aussi maintenant, il a une super carrière, Ludwig Göransson. On a entendu d'ailleurs cette version très particulière du thème de The Mandalorian and Grogu, non pas série, mais film. Et d'ailleurs, tu le disais à très juste titre, Joris s'était introduit par les cors qui rappellent et les trombones qui rappellent plutôt John Williams. Donc, c'est bien. Ça fonctionne bien. La boucle est bouclée. Écoutez le travail qu'il a fait aussi sur le film de Oppenheimer.
Oui.
C'est assez incroyable. Ce garçon a du génie. Il est pour moi devenu totalement incontournable dans le paysage filmique. Ça fait du bien de l'entendre et aussi dans cette très belle version de ce thème qui est maintenant devenu légendaire. J'ose le dire.
Ouais.
Tout le monde sait ce que c'est. C'est super. Bah, c'est à ça que ça sert.
On l'attend aussi dans l'Odyssée cette année.
En effet.
En fait, là, les Oscars prochainement, ça va être l'Odyssée pour.
Oui.
oui. pour Ludwig Göransson, disque sur D avec John Williams, et Hans Zimmer revient avec Dune partie 3. Donc on aura les trois compositeurs qui se battront.
Bon, ça va être un beau moment, oui. évidemment, avec nos écrans préférés, parce que figurez-vous qu'on peut les regarder et les entendre, et on peut faire les deux
en même temps.